On m'a dit, la datation absolue, c'est un des thèmes du programme. Alors, je suis allé chercher au BO et j'ai trouvé la page avec le thème du programme. C'est ce qui va me servir de plan, tout simplement. Je vais plutôt m'attacher à traiter des exemples qui sont pratiquement, d'ailleurs, imposés par l'exercice. Alors, si on lit ce petit morceau de texte, ce que je vous invite à faire, ça commence par la fermeture du système. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système? C'est un peu la question à laquelle je vais essayer de répondre avec les trois exemples que je vais choisir. Le premier exemple qu'on nous propose, c'est le carbone 14. Le carbone 14, ce n'est pas exactement ce que j'appellerais un outil de la géologie. Ce serait plus un outil de l'archéologie, de la préhistoire ou de la géologie très récente, on va dire. Mais c'est sans doute celui que vos élèves ou que le commun des mortels, en tout cas, connaît le mieux. Alors, deux choses sont dites à propos du carbone 14. C'est que c'est facile, entre guillemets, en tout cas, c'est simple à comprendre parce que la quantité initiale est connue. On va voir dans quelle mesure. Et puis, on nous parle aussi forcément des méthodes de mesure. Et là, vous allez voir qu'il y a eu des progrès récents. Intéressant. Le deuxième exemple qui nous est proposé, c'est le couple potassium-argon. Alors là, c'est pas une méthode, c'est un couple. Et il y a plusieurs méthodes. On va voir justement une amélioration, la méthode argon-argon. Et on vous parle dans le texte des problèmes de contamination. L'argon est un gaz. A priori, ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve dans les roches, plutôt dans l'atmosphère. On va voir comment on peut se soustraire, en tout cas estimer les contaminations. Et puis la dernière méthode qui nous est proposée, c'est le couple rubidium-strontium, qui elle, en fait est générique, entre guillemets. On va voir qu'elle nécessite plusieurs datations, et peut-être moins évidente à mettre en œuvre. Et puis elle se base sur une courbe essentielle en radiochronologie, c'est la courbe isochrone. Alors, 1 carbone 14, 2 rubidium-strontium, 3 argon-argon, enfin potassium-argon. Je vais suivre ce plan-là, sans plus de logique. Ces trois méthodes parmi tout un éventail d'outils, là je vous en ai représenté une demi-douzaine, qui permettent de couvrir à peu près tout le spectre. On a une petite lacune autour du million d'années. Je vous ai mis le temps en puissance 10 des années. Alors vous voyez qu'on a d'un côté, du côté des durées courtes, du récent, jusqu'à environ 100-500 000 ans, toute une série qu'on appelle les cosmonucléides, puisque ce sont des éléments radioactifs qui sont produits dans l'atmosphère. Et de l'autre côté, on a des méthodes nombreuses dans les très grandes durées, hein, autour du milliard d'années, qui ressemblent à peu près dans leur principe à la méthode rubidium-strontium qui va nous servir d'exemple ici. La méthode argon-argon a cet intérêt, enfin potassium-argon a cet intérêt, c'est qu'elle couvre un spectre plus large. Alors, le spectre d'une méthode, c'est deux choses. C'est un, entre guillemets, la vitesse, encore que ce ne soit pas un mot très exact, mais la vitesse à laquelle l'élément radiogénique est produit ou l'élément radioactif est détruit. Hein, si les choses se passent très lentement, il va falloir attendre longtemps pour avoir une différence significative. Et vous imaginez bien que cette différence significative, ce signal, il va dépendre aussi de la précision des outils de mesure. Donc en ce moment, vous imaginez que ces spectres sont progressivement en train de s'ouvrir hein, au fur et à mesure que les outils avancent. Alors, première méthode, la méthode carbone 14. La plus connue, je disais, qui a d'ailleurs aussi donné lieu à un prix Nobel, le prix Nobel du professeur Libby, de l'Université de Chicago, qu'il a eu en 1960. Le professeur Libby, c'est pas s'il a eu un prix Nobel de physique. Il fait partie des équipes du projet Manhattan, d'enrichissement de l'uranium pour la bombe H. Donc, il n'a pas fait des choses bien. Mais il l'a bien fait, en tout cas. Premier âge, carbone 14, qui a été... En américain, au début, on disait... Maintenant, ça se dit plus beaucoup, mais on l'appelle quelquefois radiocarbone. Premier âge publié, c'est 1951, par Arnold, le thésard de Libby. Et alors, le premier... ça, c'est un extrait du magazine Science. Le premier âge publié, c'est celui-là. C'est un petit morceau de bois qui vient d'une pyramide de Saqqara, la tombe de Sosère. Et vous voyez, c'était une pyramide qui avait à peu près 4000 ans, on va dire. Hein. Et la barre d'erreur sur ces 4000 ans, c'est de 20 à 10%. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, pour faire cet âge-là, il fallait plusieurs grammes de carbone pur à partir de morceaux de bois, donc une quantité initiale de l'échantillon très importante, et plusieurs journées de comptage, plusieurs nuits et plusieurs journées de comptage en non-stop. On va voir ce que ça veut dire que ce comptage. Alors, qu'est-ce que c'est que le radiocarbone? Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que Étonnamment, c'est rare que les choses soient si rapides. Le 1951, premier âge publié, il faut savoir que la période de désintégration du radiocarbone, elle a été connue en 1949 seulement. Donc 2 ans après qu'on ait pu établir la cadence à laquelle le carbone 14 se détruit, on arrive déjà à faire des datations. Donc l'idée de datation, entre guillemets, elle est concomitante de la découverte de la radioactivité. Et ça depuis le départ, en fait. Là, je vous l'illustre sur le carbone 14, mais c'était vrai aussi sur dès le début, Rutherford en 1905, vous savez, c'est un de ces Anglais qui a découvert la radioactivité. Il a eu l'idée, presque en même temps qu'il découvrait cette radioactivité, de dater des roches avec cette méthode-là. Il a utilisé pour ça une uraninite. Vous savez, une uraninite, c'est une roche qui est essentiellement composée d'oxyde d'uranium. Il a dosé l'hélium à l'intérieur. L'hélium, c'est les particules alpha qui sont un des produits des désintégrations successives de l'uranium. Et avec ça, en 1905, il a déjà proposé un âge pour une roche, enfin pour une uraninite en tout cas. Alors, pour la petite histoire, Rutherford arrive avec son âge sous le bras à la Royal Academy of Science, et en rentrant dans l'amphi, il voit que Lord Kelvin est là, et Lord Kelvin vient de pondre un âge de maximum 50 millions d'années pour la Terre, d'après des courbes de refroidissement. Et lui, il a sous le bras 500 millions. Et alors, il commence pendant un bon quart d'heure à dire combien Lord Kelvin était doué, combien il avait su repousser les limites de la connaissance, et il attend qu'en fait Lord Kelvin s'endorme, et là, il sort son 500 millions d'années, Kelvin n'a pas pu répondre, et les choses ont avancé comme ça. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir à attendre que vous endormiez pour dire la suite. On vient à notre carbone 14. Qu'est-ce que c'est qu'une période? Qu'est-ce que c'est que la désintégration? Comment marche la désintégration du carbone 14? Alors, le carbone, il fait partie des métaux, enfin des non-métaux. Alors, quelquefois, il y a des noms un peu plus complexes. Vous voyez qu'il est dans la même ligne, dans la même colonne que la silice. Il a plusieurs isotopes, essentiellement 3. Enfin, il n'en a que 3. Le carbone 12 qui fait l'essentiel du signal. 99% du carbone, c'est du carbone 12. 1%, c'est le carbone 13, qui est un isotope stable, dont on entend parler quelquefois à propos de la climatologie. Et puis le carbone radioactif, vous voyez, qui n'est qu'une partie pour un million de millionième, donc 10 moins 12, et qui est celui qui nous intéresse. Alors, le cycle, merci à Camille pour le dessin, le cycle du carbone 14, ça se passe dans la haute atmosphère. L'azote de l'air, qui est de masse 14, est bombardé par le rayonnement cosmique qui vient essentiellement du Soleil sur Terre. Et donc on a un proton, un des éléments du rayonnement cosmique, plus l'azote qui donne un carbone 14 et un neutron qui part. On ne sait où. Ce carbone 14 est de façon permanente mélangé au CO2 de l'atmosphère qui va s'échanger avec l'eau. Alors là, Camille m'a dessiné du nuage, j'aurais bien aimé un peu d'eau de mer parce qu'en fait le CO2 est beaucoup plus soluble dans l'eau de mer que dans l'eau douce, mais bon, il y en a dans les deux. Donc ça s'échange avec les grands réservoirs et ça s'échange aussi par le biais de la photosynthèse avec les chaînes alimentaires. Donc n'importe quel animal, masse d'eau qui est en contact permanent avec l'atmosphère, il va s'équilibrer en carbone 14 en permanence. C'est-à-dire que d'une part, il va avoir du nouveau carbone 14 et puis il va en perdre aussi par désintégration spontanée, et c'est celle-là qui nous intéresse. Le CO2 redonne de l'azote 14 par une désintégration bêta-, c'est-à-dire qu'il perd un électron. Alors ça veut dire que tant que un organisme, une masse d'eau est en contact avec l'atmosphère, son rapport 14 sur 12 est constant. Si les échanges cessent, c'est-à-dire si l'organisme meurt essentiellement, si une masse d'eau est enfouie aussi, ça marche très bien aussi avec les masses d'eau océaniques qui pourraient passer en profondeur de façon assez rapide, on arrive à les dater au carbone 14. Et bien à partir de ce moment-là, il n'y a plus de gain, par contre les pertes continuent, c'est-à-dire que la teneur en carbone 14 va diminuer. Alors elle diminue comment? Elle ne diminue pas de façon constante. Un phénomène à vitesse constante, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire d de n, ici première équation, c'est vitesse constante, c'est d de n sur dt égale constante. Ici c'est d de n sur n sur dt égale constante. C'est-à-dire que c'est pas la vitesse, c'est la vitesse relative. C'est-à-dire que s'il y en a tant, il y en aura toujours le même pourcentage qui va diminuer. Et donc ça, une vitesse constante, quand on l'intègre, ça fait une droite. Ça, si on l'intègre, ça fait une exponentielle. D'accord ? Un pourcentage, quoi. Alors, on peut intégrer ça. Alors, ça, c'est l'équation fondamentale de la décroissance radioactive. On peut intégrer ça de façon très simple et dire qu'en fait, n à l'instant t, c'est n0, une valeur initiale, à un instant t0, que multiplie un terme exponentiel décroissant. Voilà, bon, c'est une belle courbe exponentielle décroissante, comme vos élèves de terminale en ont, je l'espère, à l'habitude. Alors, y a la constante, c'est lambda, la constante des intégrations. Vous voyez que si on fait une analyse en unité, on voit que c'est du par an, c'est 1 sur t. C'est pas facile, c'est pas très parlant. Vous voyez, pour le carbone 14, c'est 1.21 × 10⁴ par an. On ne voit pas bien ce que ça veut dire. Alors, on introduit cette grandeur grand T, la période, ou qu'on appelle aussi la période de demi-vie, qui est le temps nécessaire pour qu'un stock initial soit divisé par 2. Et ça, c'est une constante qui s'exprime comme ça. Si vous faites n égale n0 sur 2, vous allez obtenir T égale ln de 2 sur lambda. Et pour le carbone 14, c'est 5730 ans. Vous avez peut-être lu dans des ouvrages qu'il y a eu deux valeurs, mais aujourd'hui, celle sur laquelle on est tous d'accord, c'est 5730 ans. Ça veut dire qu'en 5730 ans, on divise le stock de carbone 14 par 2. Alors, je réécris cette n égale n0, etc., avec ce qu'on nous, on peut mesurer facilement aujourd'hui dans un spectro. Je reviendrai plus tard sur ce que c'est. C'est le rapport 14 sur 12 à l'instant t, qui est égal au rapport 14 sur 12 initial, que multiplie une constante. Alors, qu'est-ce qu'on connaît dans cette équation et qu'est-ce qu'on doit chercher ? 14 sur 12 à l'instant t, on verra tout à l'heure, ça, c'est ce qu'on peut mesurer. T moins T0, c'est bien ce qui nous intéresse. On veut dater cet échantillon, on va dire, cette masse d'eau, ce morceau de matière organique. Et lambda, c'est une constante qui est déterminée par la physique. Celle-là, on la connaît. Donc, on peut avoir une valeur si on dit que 14 sur 12 initial est connu. Hypothèse très forte, hypothèse numéro 1, on dit, eh bien, le rapport 14 sur 12 d'un élément, d'une masse d'eau au contact avec l'air ou d'un organisme vivant il y a 20 000 ans, c'est le même que les organismes vivants aujourd'hui. Conclusion, si on fait l'hypothèse que 14 sur 12, 0 est constante, d'accord, si je veux avoir le 14 sur 12, 0 d'un animal qui a ou d'un morceau de bois qui a 10 000 ans, il me suffit que je mesure le 14 sur 12 d'un morceau d'arbre qui est vivant à l'heure actuelle. Bon, ben on peut y aller. Donc, il suffit de faire une mesure, on va avoir un âge. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cette mesure ? Alors, il y a différentes méthodes. La méthode classique, c'est celle qu'utilisait Arnold et Libby, et puis qui a été petit à petit améliorée. On ne mesurait pas le 14 sur 12, comme je l'ai écrit tout à l'heure, mais on mesurait la radioactivité. C'est-à-dire que, dans l'échantillon, pour avoir une idée de la quantité de carbone 14 qu'il y a encore, il suffit d'avoir une idée de le nombre de carbone 14 qui se désintègre, puisqu'on sait que ça, c'est proportionnel à la quantité. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un compteur bêta. On va compter le nombre de radioactivité bêta. Alors, le principe, c'est ce qu'on appelle un scintillateur. Ce n'est pas évident de détecter une particule bêta moins, un électron donc, qui serait éjecté d'un noyau. Par contre, il y a certains matériaux, des liquides, mais aussi des plastiques, qui ont la propriété d'émettre de la lumière quand ils sont traversés par des électrons. C'est ce qu'on appelle des liquides scintillants. Donc on prend notre échantillon, on en extrait le carbone et on en fait par exemple ici dans un scintillateur à phase liquide, on en fait du benzène. Ce benzène, on le mélange à un liquide scintillant et ça fait dans une éprouvette un échantillon qui fait un flash de lumière à chaque coup de radioactivité bêta moins. Alors le problème, c'est que vous imaginez bien que cet échantillon qui a 10 000 ans, il contient beaucoup moins de carbone 14 que ma main, que la table en bois, que l'atmosphère dans laquelle on travaille pour mesurer ce truc-là. Donc on a affaire à une mesure sur quelque chose dont le signal est bien plus faible que le bruit. Donc tout le problème, ça va être de se soustraire du bruit. Première méthode, on se met sous une piscine de flotte qui va arrêter le rayonnement cosmique qui vient justement du Soleil. On entoure notre compteur d'un mur de briques de plomb de 50 cm à 1 mètre qui va nous limiter parce que forcément il y a du carbone dans les murs, enfin bref, et puis d'autres rayonnements cosmiques qui viennent de la pièce. Et puis on utilise des tests. on met pas simplement un compteur, alors ça c'est ce qu'on appelle un photomultiplicateur, hein. Donc c'est, vous imaginez, c'est un tube qui transforme un signal lumineux ici en, par une cascade d'amplification, en un signal électrique. Après on n'a plus qu'à mesurer le signal électrique. Si on se contente de mettre un photomultiplicateur devant notre petit flacon, on va mesurer ce qui se passe dans le flacon, ce qui se passe dans le photomultiplicateur, puisque là aussi il y a des éléments radioactifs qui vont donner des coups, etc. Ce qui se passe autour, etc. Alors, première méthode, celle que je vous ai illustrée par ce petit dessin tout simple, on en met deux. Et on ne compte les coups que s'ils ont été détectés par les deux dans le même intervalle de seconde. Et ça, c'est ce qu'on appelle un test en coïncidence. Conclusion, s'il y a une particule qui vient de je ne sais où et qui a traversé juste ce tube-là, comme elle n'est pas comptée dans l'autre, celle-là, elle sera éliminée. Et puis vous allez me dire, ouais, mais s'il y en a qui passent comme ça, qui passent à travers les deux, comment on s'en sort? Ou si y a, bon bref, il y a toutes sortes de parasites. Alors là, par exemple, on met d'autres capteurs qui sont tournés vers l'extérieur, et là, on met des tests en anti-coïncidence. C'est-à-dire que si les capteurs vers l'extérieur ont capté quelque chose, mais pas ceux du cœur, alors, etc., etc. Donc il y a tout un système qui permet de descendre le bruit pour faire apparaître un signal qui est, lui, très faible. D'accord ? Alors c'est pour ça qu'il fallait compter pendant plusieurs jours pour avoir un nombre significatif de bruit au premier temps du calcul. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça du tout. On a mis au point des outils beaucoup plus sophistiqués qui ne mesurent pas la radioactivité de l'échantillon, mais à proprement parler, les teneurs en carbone 14 et en carbone 12. Alors là, un exemple français, le temps des troncs, qui n'est plus utilisé à l'heure actuelle pour la datation carbone 14, mais qui a été un des premiers, hein, c'est ce qu'on appelle un spectromètre de masse, excusez-moi, à haute résolution. Ça ressemble beaucoup au principe du spectro que vous connaissez, avec une source, un déviateur, qui est en fait un champ magnétique, et puis un détecteur. Sauf que là, la source, c'est pas directement un échantillon qu'on ionise, mais c'est un échantillon qu'on bombarde sous un flux d'ions, qui sont des césium plus. Là, quand on bombarde comme ça un échantillon sous un flux d'ions, on va ioniser absolument tout le matériau, en faisant des ions assez complexes d'ailleurs. C'est pas pur comme signal. Alors l'idée, c'est de le filtrer plusieurs fois en les cages de Faraday rétractables, ça sert à ça, hein, filtrer les ions. Et puis aussi, c'est là la grande invention, c'est ce qu'on appelle le transformateur en tandem, à bombarder les ions par des ions ici, c'est des ions argon, pour casser les ions complexes et ne garder finalement que des ions 14C. Et à la sortie de ce filtre-là, on n'a plus que des ions, 12C3+, 13C3+, et 14C3+. Vous imaginez qu'il pouvait y avoir des CH3+, etc. D'accord, hein, des ions moléculaires complexes. Donc là, on n'a plus que des ions positifs, c'est important, et tous issus de l'atome carbone. Alors ensuite, eh ben, puisqu'on les met dans un champ, on verra ça tout à l'heure, puisqu'on les met dans un champ magnétique, ils sont déviés selon leur masse et leur charge, et il suffit ensuite de régler le détecteur pour quantifier le nombre d'ions de chaque masse. Alors, on a une mesure par comptage de la radioactivité ou par spectroscopie de masse. On doit pouvoir avoir un âge. Si on considère que la quantité initiale est constante, c'est là la grande hypothèse de la datation carbone 14. Alors, la grande angoisse est si jamais cette hypothèse était mauvaise. Alors, la réponse, elle est arrivée d'une autre méthode qu'on vous a déjà présentée ce matin, la dendrochronologie, hein, qui est l'étude des successions des cernes de croissance du bois. Alors ici, hein, petit schéma de principe, hein, à partir de bois de plus en plus anciens, on arrive à faire, et en recoupant les différentes séquences de croissance de cernes, on arrive à refaire une échelle, hein, dendrochronologie. Alors, aujourd'hui, en tout cas, dès les années 70, on a réussi à faire des échelles sur environ 7000 ans. Alors là, c'est un des outils de cette mesure, c'est Pinus longaeva. C'est aussi ce qu'on appelle le brittle scone pine, qui ne pousse que dans les White Mountains aux États-Unis. C'est lui qui a le record du plus vieil arbre au monde, Mathusalem, 4800 ans, quelque chose comme ça. En comptant les cernes de ces bois-là, un dénommé Ferguson, qui travaillait à San Diego, a réussi à faire une une échelle consécutive de 7000 ans pour les États-Unis. En même temps, en Allemagne, sur le chêne européen, ils ont réussi à peu près la même longueur. La première idée de ces gens-là, bien évidemment, ça a été de dire, mais puisqu'on a un organisme vivant qui nous permet d'avoir une échelle d'âge sur 7000 ans, pourquoi ne pas dater ces arbres, ces sections d'arbres, au carbone 14? Donc Ferguson, il a découpé ces arbres en petites tranches de 20 ans, de 20 cernes successives, et les a envoyés à La Roya, chez Libye. Et ben, le résultat n'a pas tardé à venir. C'est pas bon. Ça, c'est l'âge 14C conventionnel, c'est-à-dire en comptant N0 égale 0, N0 égale constante, excusez-moi, et puis ça, c'est les âges dendrochronologiques. Alors qu'on attendrait une belle diagonale, on a des variations. Conclusion, l'hypothèse de départ est fausse, N0 n'est pas constant. La quantité de carbone 14 dans l'atmosphère varie au cours du temps. Alors vous allez dire, du coup, on ne peut plus rien dater du tout. Si, à condition de connaître ces variations du 14 carbone dans l'atmosphère. D'accord ? Donc il faut recalibrer les âges 14C sur une courbe de variation de la teneur en carbone 14 dans l'atmosphère. Alors ça, ça a été les travaux des années 70-80, de mettre en évidence, enfin de calibrer cette courbe. Et en fait, elle a plusieurs ordres de grandeur et plusieurs causes de variation. Alors, voilà à quoi elle ressemble. On représente ici le delta, grand delta. Vous avez peut-être l'habitude des petits deltas, hein, delta au 18. Grand delta, c'est la variation par rapport à l'actuel. Delta au 18, c'est par rapport à un standard. Grand delta, ça veut dire variation par rapport à l'actuel. Donc ça s'exprime en pour 1000. Et vous voyez ici, 0, nous on est quelque part autour de 2000. Donc sur les 8000 dernières années, la variation est d'abord le long d'une grande polygonale qui est en fait les variations qui est reliée aux variations d'intensité du champ magnétique terrestre. Vous allez me dire quel est le rapport. La magnétosphère, hein, le champ magnétique terrestre, nous protège du rayonnement cosmique. Ça crée un bouclier contre l'essentiel, d'ailleurs, heureusement pour nous, du rayonnement cosmique. Et donc, vous imaginez bien que si ce champ magnétique venait à augmenter en intensité, la quantité de carbone 14 produite finirait par diminuer. Enfin, de carbone 14, oui, produite dans la haute atmosphère, diminue. D'accord ? Donc là, on est dans une période de fort champ magnétique. Deuxième variation, donc là, j'ai enlevé cette variation due à l'activité du champ magnétique, eh bien, on retrouve une période qui n'est pas très bien fixée, qui a 209 ans, et ça, c'est relié à l'activité solaire. On retrouve aussi d'ailleurs sur cette courbe la fameuse période à 11 ans dont on entend parler, la période des taches solaires, on la retrouve là-dessus. Puisque la principale source de rayonnement cosmique sur Terre, c'est le Soleil, il semble logique que la production de carbone 14 soit reliée directement à l'activité solaire. Alors il y a d'autres choses hein, qui peuvent faire du rayonnement cosmique, s'il y a des explosions de supernova, pas trop loin, ça aussi ça peut provoquer, il y en a une dans les années, je ne sais plus, 1600 ou quelque chose comme ça, et ça se voit dans le signal. Et puis la dernière cause, il ne faut pas être modeste, hein, c'est nous. Une première, c'est sur les, ça c'est une tendance qu'on suit sur les 150 dernières années, puisqu'on brûle du combustible fossile. Donc des stocks de carbone pauvres en carbone 14, on va avoir tendance à diluer le carbone 14 atmosphérique avec le CO2 anthropique. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tendance de SUS, SUE2S. C'est cette grande décroissance, mais qui n'est pas énorme. Par contre, il y a un signal qui est très fort et qui a des pics positifs dans les années 60, c'est les essais nucléaires atmosphériques. Les essais nucléaires atmosphériques, ça génère des réactions nucléaires en chaîne qui produisent beaucoup de carbone 14. Alors c'est, pour l'instant, il n'y a pas d'effet secondaire notoire. C'est utilisé en science parce que ça marque très bien les eaux océaniques. Une eau océanique qui était en surface en 1965, elle va montrer des valeurs très hautes. Et on peut la suivre ensuite hein, à l'intérieur des masses d'eau, etc., etc. Donc c'est des marqueurs, mais bon, il n'y a pas de quoi, c'est pas pour ça qu'il faut recommencer. Alors en conclusion de la méthode carbone 14, aujourd'hui avec le temps des troncs et puis des méthodes encore plus pointues, on arrive à dater à partir de 5 mg ici de la peinture utilisée dans la grotte Kosker, vous savez une de ces grottes récemment étudiées, et bien on a pu dater ces chevaux là à 19 000 ans. Alors ça c'est les travaux d'Hélène Valadas, qui a écrit d'ailleurs l'article sur le carbone 14 dans le supplément pour la science là, qui est sorti ce mois-ci, que je vous conseille de lire. Elle parle d'ailleurs de la grotte Chauvet, de la grotte. C'est des superbes, c'est des très belles études de carbone 14. Alors, quand on date de la peinture au carbone 14, qu'est-ce qu'on date? Est-ce qu'on date le moment où le type a fait brûler son petit bout de bois pour dessiner? Est-ce qu'on date le moment où l'arbre qu'il a utilisé est mort? Enfin, ça devient assez intéressant comme problème. C'est plus tout à fait de la géochronologie, mais c'est intéressant. Sans transition, rubidium strontium. Et là, on rentre dans les deux méthodes sur lesquelles je vais passer du temps, qui sont peut-être plus géologiques au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire à l'échelle du million d'années, voire plus. Alors, le rubidium strontium, il a quelques hauts faits à son actif. Il a permis de dater, par exemple, ici, vous connaissez Issua, qui sont les plus vieilles roches datées, qui étaient les plus vieilles roches datées jusque récemment, et qui servent encore, hein, 3,8 milliards d'années, qui servent encore de référence pour le début de la période archéenne, de l'ère archéenne, et les gneiss d'Amitsoq, qui leur ressemblent beaucoup, qui ont été datés ici par la méthode rubidium-strontium. Alors, un âge rubidium-strontium, c'est ça, c'est un diagramme 87 rubidium sur 86 rubidium en fonction de 87 strontium sur 86 strontium. Et il y a plusieurs points et c'est une droite. Autre point important, c'est l'âge du Grand Dyke du Zimbabwe. Le Grand Dyke du Zimbabwe, moins connu, ben c'est l'autre limite de l'archéen. Le refroidissement du Grand Dyke du Zimbabwe à 2,5 milliards d'années, ça marque la fin de l'archéen et le début du protérozoïque. C'est de la même façon qu'on a un stratotype pour les terrains qui contiennent encore des fossiles. On a décidé que c'était ça la référence pour dire archéen ou plus archéen. Et là, encore une fois, une droite dans le même diagramme, visiblement plusieurs mesures. Certaines mesures sont données roches totales et d'autres minéraux séparés. On va voir ce que ça veut dire. Alors, on revient un peu à de la chimie encore une fois. Rubidium, strontium, le rubidium est dans la première ligne, les alcalins. Il est juste sous le potassium, et pour cause, il a beaucoup de propriétés chimiques communes avec le potassium. Donc on va le trouver principalement dans les minéraux riches en potassium, dans les roches riches en potassium, granite par exemple, et dans les minéraux riches en potassium, alors là je pense au mica, je pense au feldspath, essentiellement d'ailleurs. Et puis il se désintègre deux isotopes cette fois-ci, l'isotope rubidium 85 et l'isotope rubidium 87 qui est radioactif. Et lui, par contre, il représente une assez grande proportion de l'ensemble, hein, c'est presque un tiers. Alors ce 87 rubidium, il est radioactif et il se désintègre en 87 strontium. 87 strontium qui se trouve juste à côté, d'accord. Donc à nouveau, il augmente d'une case dans ce sens-là dans la table comme C donne N, donc c'est aussi une désintégration bêta moins, il perd un électron. Le strontium qui se trouve dans la même ligne, les alcalinos terreux, dans la même ligne que le calcium. Alors c'est pas aussi simple, il n'a pas les mêmes affinités pour le calcium que le rubidium là pour le potassium, mais on peut dire ça, lui aussi on va le trouver préférentiellement dans des minéraux riches en calcium. Il a plusieurs isotopes. Donc le 86 qui est majoritaire est stable et le 87 qui est issu de la désintégration radioactive. Alors, si on revient à notre équation n égale n0, etc., cette fois-ci, si on veut l'intégrer, c'est plus complexe. On retrouve notre terme n à l'instant t, 87 SR sur 86 SR. On retrouve le terme 87 RB sur 86 SR, ça c'est le terme de dosage du père à l'instant t, qui lui est assorti d'un coefficient exponentiel. Mais ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, puisqu'on s'intéresse à un couple fils-père, c'est la quantité de fils initial. Ça, c'est la quantité de strontium qu'on a aujourd'hui dans la roche, ça, c'est la quantité de père qui reste. Oui, en effet, on doit pouvoir en déduire un âge. Le problème, c'est que s'il y avait au départ du strontium 87, qui n'est pas issu de la désintégration du rubidium, ben ça, on ne peut pas le voir. Donc là, ce n'est pas un âge, une mesure, je veux dire, ne peut pas nous donner un âge. Vous voyez bien que c'est une équation avec une chose mesurable, deux choses mesurables, une inconnue, deux inconnues. On ne peut pas résoudre ça. Alors, pour vous redonner les valeurs, comme tout à l'heure, là, cette fois-ci, lambda, c'est du 10-11, ça fait une période de 50 milliards d'années. 50 milliards d'années, vous voyez que c'est très long, on peut largement dater des choses qui ont l'âge de la Terre. Alors, puisque une mesure ne peut pas nous donner un âge, on va être un peu obligé de biaiser. Si on considère que pour plusieurs mesures, on va voir lesquelles, ce terme-là est le même, c'est-à-dire que la teneur en strontium initial est la même, et que l'âge est le même, alors on va avoir un système avec deux variables et deux constantes. D'accord. Et ça, ça nous fait Y égale A plus XB, c'est une droite. Si A et B sont les mêmes pour toutes les mesures, c'est pas évident. Et c'est la droite qu'on a vue tout à l'heure dans notre diagramme. Oups là, je vais trop vite, excusez-moi. C'est la droite qu'on a vue tout à l'heure dans notre diagramme. La droite qui relie le rubidium 87, c'est X, au strontium 87, c'est Y. On va voir tout à l'heure dans quelles conditions on peut dire que A et B sont les mêmes. Alors pour faire ces mesures, on utilise un spectroscope de masse. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Un spectroscope de masse, c'est toujours la même chose. Une source, un aimant, un détecteur. Alors ici, c'est celui de l'Institut de physique du globe à Paris, hein, en face du bureau de notre ancien ministre. La source est là, en dessous du ballon, là. L'aimant, c'est ça, et le détecteur est ici. Alors dans le détail, bien sûr, il faut un ordinateur derrière tout ça, on ne fait pas ça à la main. Dans le détail, on introduit ici dans la chambre un filament sur lequel on a déposé le rubidium, par exemple, quand on est en train de doser le rubidium, en fine pellicule. On fait chauffer ce filament, ça a pour effet de ioniser complètement le rubidium dans la chambre. Il est ensuite envoyé dans un champ électromagnétique qui, puisque le rubidium est un ion, va l'accélérer en fonction de sa charge. Donc ici, on se retrouve à la sortie de la source avec un flux d'ions, bon, qui est filtré, etc., et qui est envoyé dans un aimant. Cet aimant, il provoque un champ vertical, un champ magnétique vertical. On fait passer dedans des ions, un flux d'ions horizontal. Ils vont donc avoir une déviation latérale. D'accord ? Donc, vous savez, hein, c'est F égale QVB, programme de terminal de physique, me semble-t-il. Donc là, ça peut faire un renvoi éventuellement. Cette force F, elle dépend donc de Q, ça se voit ici directement, mais la vitesse de nos ions, elle, qui provient de leur accélération dans le champ électrostatique, elle dépend aussi de la masse. Donc en fait, le rayon de courbure de la trajectoire, il va dépendre de la racine du rapport M sur Q. Bon, soit. Ce qui est important, c'est que ça dépend de la masse. Conclusion, nos isotopes de masse différentes, rubidium 87, rubidium 86, ils vont se retrouver déviés en deux faisceaux différents. Et au bout, alors ici, c'est un spectroscope un peu complexe avec un système de filtration. C'est ce tube-là, là, qui est un système qui permet, par exemple, d'isoler une partie du signal. Vous imaginez que vous ayez un ion en très grande quantité, qui viennent taper sur le spectroscope juste à côté de l'ion que vous voulez mesurer, vous allez avoir des problèmes d'interférence. Donc ça, c'est un système de filtre. Et à la fin, on peut obtenir un signal électrique qui est traité par l'ordinateur. Donc nous y voilà avec notre fameuse... On a fait plusieurs datations, plusieurs mesures, je veux dire. Et avec ça, la pente dans le diagramme 86 RB, 87 SR, nous donne un âge. D'accord ? Alors... J'ai repris l'âge du Grand Dyke parce que il y avait des points roches totales et minéraux séparés. Alors on va voir ce que ça veut dire que ces âges qui sont faits avec des fractions de roches totales, simplement on prend un petit bout de la roche, on le met en poudre avant de faire la préparation, et puis l'autre, on prend les minéraux séparés. Alors, pour ça, je vais revenir sur un exemple un peu théorique. Vous imaginez une roche, plutôt une série de roches, deux roches, la roche R1 et la roche R2, qui sont formées à un instant T0. D'accord. Dans cette roche, dans la roche R2, on a isolé aussi les minéraux M2A, M2B, M2C. À l'instant initial, le rapport rubidium sur strontium, qui sont deux éléments différents, dépend de la chimie des minéraux. J'ai dit que le rubidium il avait la même affinité que le potassium et le strontium la même affinité que le calcium. Donc en fonction, savoir si c'est un Un feldspath qui aura un très faible rapport RB sur SR, ou un mica, une biotite qui aura encore un plus fort rapport, ils vont s'aligner, ils vont avoir des rapports RB sur SR différents. Par contre, ce rapport-là, 87 SR sur 86 SR, c'est un rapport d'isotope de même propriété chimique, a priori. Donc, et la variation de masse entre l'un et l'autre, c'est 1 sur 86, c'est pas grand-chose. Donc, ils vont avoir les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis des réseaux cristallins. Donc, ils vont être finalement dans les mêmes rapports d'un minéral à l'autre. D'accord ? On peut considérer que le fractionnement isotopique est nul, hein, 1 sur 87, c'est pas grand-chose. Donc, ils s'alignent sur une droite horizontale dans ce diagramme-là. Ça, c'est important. D'accord ? Donc, ça revient à dire aussi dans mon équation y égale à x plus b que tous les points de mesure ont le même A, la même teneur en 87 SR 0. C'est sans doute le point le plus important de la méthode. Alors, ce qui se passe au cours du temps, c'est que à chaque rubidium qu'on perd par désintégration, un strontium apparaît, 87. Donc nos points se déplacent sur une première diagonale à 45 degrés dans le diagramme s'il est orthonormé et restent alignés. À l'instant T1, excusez-moi, j'ai des problèmes avec mes films, voilà. À l'instant T1, la pente de la droite, c'est exponentielle, lambda T1 moins T0 moins 1. Bon, bah, pas de problème. Là, qu'on s'occupe de fractions de roche ou qu'on s'occupe de minéraux séparés, on obtient la même chose. Imaginons maintenant, juste pour corser l'histoire, qu'à cet instant T1, la roche M2, la roche orange, soit perturbée. On verra ce que ça peut être qu'une perturbation. Imaginons par exemple qu'elle soit chauffée par un événement métamorphique. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le chauffage va permettre la diffusion des éléments. D'accord ? Alors, le rapport rubidium sur strontium des différents minéraux, il ne va pas changer parce que ça dépend de leur chimie. Un minéral, il ne va pas aller prendre du rubidium ailleurs. Par contre, les teneurs en strontium 87 et 86, qui s'étaient déséquilibrés du fait de la production radioactive, eux, ils vont se remettre à zéro puisqu'il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de 87 SR dans un minéral que dans un autre, si les isotopes peuvent diffuser. D'accord ? Donc, notre roche M2, voilà ce qui lui arrive. Tous les minéraux se remettent sur une droite qui tourne autour du barycentre, qui est la roche totale. Le point de la roche, lui, il ne change pas. La teneur globale en rubidium et strontium de la roche ne va pas changer. Si le temps se remet... voilà, donc on se retrouve dans cette situation-là. Au bout d'un certain temps, cette fois-ci, on n'aura plus tous les points qui s'alignent sur la même droite, mais les points issus des fractions de roche vont s'aligner sur une droite qui tourne toujours autour du même point. Donc elles vont nous donner toujours T2, non, maintenant on est à T2, T2 moins T0. Par contre, la roche qui a été perturbée, elle tourne autour de la deuxième droite, et cette fois-ci, elles vont nous donner T2 moins T1. D'accord ? Donc, si on prend des points de roches différentes issus d'une même série qui partagent le même rapport initial, alors on appelle ça une isochrone externe, puisqu'il y a plusieurs roches, alors on va pouvoir avoir la date de formation de la série de roches. Par contre, si on prend plusieurs minéraux à l'intérieur d'une même roche, on parle alors d'isochrone interne, et bien là, on doit pouvoir remonter à la dernière perturbation du système isotopique. D'accord ? Alors, un exemple que j'ai pris ici de perturbation, c'est le chauffage. Un épisode métamorphique, par exemple. Alors, le grand deck du Zimbabwe, il a cet intérêt, c'est que tous les points internes et externes s'alignent sur la même isochrone. En résumé, il n'a pas subi beaucoup de métamorphisme, entre autres, depuis sa formation. C'est aussi pour ça qu'il a été utilisé. Il n'y a pas beaucoup de problèmes sur son âge. Alors, un exemple d'étude à propos de ces isochrones internes et externes, la signification des âges, du coup, qu'il faut donner à ces courbes isochrones, c'est... qui date de 65-66, c'est une Suisse, je crois, Emily Jaeger, qui a travaillé ici dans les nappes des Alpes centrales, vous savez, c'est ce qu'on appelle le dôme Simplot-Tessinois. Elle a daté, par la méthode rubidium-strontium, des micaschistes, elle a daté les muscovites, on verra tout à l'heure les biotites, les feldspathes, et aussi des fractions de la roche totale. Alors, vous voyez que sur trois localités différentes, les isochrones internes, c'est-à-dire faites avec un point roche totale et un point sur muscovite. Donc isochrone interne sur muscovite donne des âges entre 27 et 20 millions d'années. Vous devriez, en prof de lycée méthodique, tiquer sur des droites qu'on a osé faire avec deux points, puisque bien sûr il y a toujours une droite qui passe par deux points. On ne peut pas se rendre compte ici de savoir si on a le droit de faire ça. Mais elle a publié ça et c'est le premier travail qui met en évidence ce problème. Je ne vais pas rajouter des points. Donc en effet, dans la théorie, j'aurais préféré trois points, mais elle ne les a pas fait, alors je ne vais pas les inventer. Et donc là, on date avec cette méthode, avec ces isochrones internes, l'âge de la dernière ouverture du système. Par contre, vous voyez que les fractions de roche totale, elles, s'alignent sur une pente qui est beaucoup plus raide. Hein. Pente plus raide, ça veut dire âge plus grand. À peu près, ça ne s'aligne pas exactement, mais ça donne à peu près un âge 375 millions d'années, c'est quoi ? C'est dévonaux carbonifères. Et là, c'est sans doute, en effet, c'est un bon candidat pour l'âge de la formation de séries de roches. Donc vous voyez ce que ça peut donner hein, sur une étude concrète. Avec différentes roches, on a l'âge de la formation de la série de roches, c'est des roches sédimentaires hein, au départ. Et puis là, on a l'âge du métamorphisme, en l'occurrence le métamorphisme simplotessinois, vous savez, un épisode de haute température qui n'a eu lieu que dans les Alpes centrales, entre 30 et 20 millions d'années. Ah oui, ben ça c'est vraiment pratique. Il suffit de trois roches, plusieurs minéraux dans chaque roche, et on peut savoir quand elles ont été formées, quand elles ont été métamorphisées, etc. Et c'est là que le travail de Jaeger est devenu très intéressant pour la communauté des géochronologistes, c'est qu'elle a fait aussi des datations sur biotites. Et les biotites et les muscovites ne s'alignent pas avec les points sur roche totale. Conclusion, les différents minéraux séparés ne donnent pas la même isochrone interne. Et vous, si vous regardez bien, vous voyez, ici, en bleu, c'est la même chose. 26 millions d'années sur les muscovites, 18 millions d'années sur les biotites. 20, 11, 8, 27, 20. C'est toujours 8 millions d'années de moins. On a l'impression que les biotites, le chronomètre des biotites s'est mis en route 8 millions d'années plus tard que le chronomètre des muscovites. Et dans cette région, c'est systématique. On a l'impression que le système isotopique des biotites s'est refermé après la perturbation plus tard que le système des muscovites. Elles se sont remises à zéro plus tard, ou plutôt elles se sont remises à démarrer, hein, c'est assez empirique, mais je crois qu'il faut passer par là, plus tard. Alors, ce qui a varié essentiellement au cours de cet épisode de métamorphisme, c'est la température. Et Emily Jaeger a proposé à ce moment-là qu'en fait, ce soit la température, le contrôle de cette différence, et elle a dit... Les muscovites se remettent en route, se referment à la diffusion isotopique à plus haute température que les biotites, qui restent donc ouverts plus longtemps. Et elle a mis en avant la notion qu'on verra tout à l'heure avec l'argon-argon, la notion de température de fermeture. Alors avant de développer ça, qui est un peu, on l'a dit tout à l'heure, la conclusion de cette histoire-là, on va passer à la méthode argon-argon. Alors, c'était juste une image de transition que j'aurais dû passer tout à l'heure. La méthode, le couple potassium-argon, c'est deux méthodes. J'ai fait un peu la confusion, je suis désolé. C'est la méthode potassium-argon et la méthode argon-argon. Alors, la méthode potassium-argon, qui est pas très utilisée maintenant, elle a eu son heure de gloire. Il faut lui rendre ça, parce que c'est grâce à elle, entre autres, que, ici c'est un des premiers travaux de McDougall et Tarling, c'est grâce à elle qu'on a pu caler l'échelle paléomagnétique. Vous voyez ici, c'est des laves d'Hawaï, dont on savait qu'elles avaient une polarité magnétique normale ou inverse. Et ici, les âges potassium-argon qui ont permis de faire cette échelle en noir et blanc que Wine et Matthews ont comparé à la peau de zèbre océanique. Et de là est arrivée l'idée de génie de l'expansion du plancher océanique. Alors, le potassium-40, hein, un des isotopes, est radioactif. Il se désintègre à nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, en shiftant d'un cran dans la table, en calcium 40. Donc ça, c'est une désintégration bêta moins. Mais il se désintègre aussi en argon, par une voie un peu complexe. C'est pas une seule désintégration, mais ça donne de l'argon. Et la probabilité qu'on obtienne de l'argon est de 11%. Donc 11% des potassium 40 vont donner de l'argon. Donc La constante de désintégration de l'argon, c'est du 10-10, et vous voyez que du coup, ça fait du potassium, excusez-moi, ça fait une période qui est moyenne entre les deux qu'on a vues. Hein. Tout à l'heure, on en avait une qui était de quelques milliers d'années, une autre de quelques milliards d'années. Et là, ici, on a une période d'un milliard d'années, donc ce qui permet d'aller à une datation entre un spectre de datation entre 1 million d'années et l'âge de la Terre. Donc 11% pour la voie de l'argon. Et on peut écrire que l'argon total contenu dans une roche aujourd'hui, c'est la quantité d'argon initiale, hein, on se retrouve pareil que tout à l'heure avec le strontium, plus la quantité d'argon 40 produite. La quantité d'argon initiale, bon, toujours le même problème. Cette quantité d'argon produite, c'est le terme de décroissance exprimé en fonction du potassium 40 fois la probabilité, donc fois 0,11, fois 11%, la probabilité d'obtenir de l'argon. D'accord ? Donc c'est la même équation que tout à l'heure pour le rubidium strontium, sauf qu'en plus il y a ce terme de probabilité d'obtenir de l'argon. On va me dire, ouais, pourquoi on s'embête à aller regarder l'argon qui représente que 11%, alors qu'il y a du calcium qui est produit aussi, et qui lui est produit par une radioactivité bêta moins. Enfin bref, ça serait peut-être plus simple. La différence, c'est que a priori, de l'argon dans une roche, l'argon c'est un gaz rare, c'est un gaz, et en plus il est rare, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup dans une roche. Alors que du calcium, là il y en a des tonnes. D'accord ? Donc on pourrait écrire la même chose avec le calcium, mais alors là ce terme-là il deviendrait carrément prépondérant sur celui-ci. L'idée ça a été que si on se basait sur, si on prenait le couple potassium-argon, on aurait un terme ici pas trop fort. Alors, un des exemples qui est d'ailleurs donné dans le programme officiel pour le thème datation absolue, c'est l'exemple de la datation des premiers hominidés du parc du Ngorongoro ici. Alors, vous avez deux sites hein, bien connus. Ici, au bord, c'est les gorges d'Olduvai, mais ça, la même méthode a été utilisée ici, plus au sud, je crois, dans la vallée de l'Étolil. Tout ça, c'est les travaux des époux, je ne sais plus leur nom, Likei. Ils ont daté, avec leurs équipes, les laves, ici c'est un tuf, déposé juste au-dessus d'un des niveaux riches en dépôts, en restes d'anthropoïdes. Alors, voilà les résultats à nouveau dans un diagramme de type isochrone, comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Plusieurs mesures dans ce diagramme. Alors, si je fais l'hypothèse que la teneur en argon initiale est négligeable, ça veut dire que toutes mes courbes passent par zéro ici. Et vous voyez qu'en fonction de la datation qu'on utilise, on a un âge entre 3 et 2 millions d'années. Une erreur sérieuse, une bonne dispersion de la donnée, on va dire. Par contre, si on fait l'hypothèse que ben, l'argon initial n'est pas nul, qu'il y en a un petit peu, c'est ce qu'on appelle de l'argon en excès, et bien cette fois-ci, vous voyez qu'on peut tracer à nouveau une droite isochrone qui passe plus par zéro, et l'âge est d'à peu près 1,9 million d'années. C'est l'âge d'ailleurs que... Ça, c'est le site de Boisei. Hein, et cet âge est à peu près 1,9 million d'années. On est d'accord là-dessus. Donc, il y a de l'argon initial dans une roche. Alors, cette méthode, elle a beaucoup été utilisée. Elle n'est pas sans problème. Le premier problème, c'est que le potassium 40, c'est un élément solide. Alors que l'argon, c'est un élément gazeux. Conclusion, il faut deux outils de mesure différentes. Il faut un spectromètre de masse en phase solide et un spectromètre de masse en phase gazeuse. Conclusion, on a des sources d'erreurs systématiques de mesure qui ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les retrancher, bref, elles s'ajoutent. Ça va rajouter du bruit à la mesure. Et puis... Puisqu'il faut deux appareils différents, il faut deux fractions de l'échantillon différentes. Un dont on va extraire le potassium, l'autre dont on va extraire l'argon. Rien ne nous dit que les teneurs sont homogènes, entre guillemets. Vous voyez, c'est comme si on prend deux échantillons différents et en fait on mesure un seul des composants sur les deux. Donc on est embêté, là aussi, si la roche était inhomogène au départ, on ne va pas pouvoir rendre compte de cette dispersion. Et c'est là qu'a été améliorée la technique par la méthode argon-argon. L'idée a été simple. L'idéal, ce serait de mesurer les deux dans le même outil et sur le même échantillon. si on irradie artificiellement, c'est-à-dire si on place l'échantillon sous un flux de particules, alors c'est ce qui se fait en Allemagne, on n'a pas le droit de le faire en France, mais on peut le faire en Allemagne ou au Canada, on place l'échantillon, donc le petit minéral ou la petite fraction de roche, dans un accélérateur de particules, et il va être bombardé. Ça, ça va provoquer des réactions nucléaires induites, entre autres la déstabilisation du potassium 40 en argon 39, dans une certaine proportion. Qu'on connaît parce qu'avec le petit échantillon, on met un standard. On sait combien il y a de potassium 40 au départ, on regarde combien va être transformé en argon 39. Donc, on sait bien ce qu'on fait quand on irradie notre truc. Ce qui fait que, dans notre échantillon irradié, on a de l'argon 40 issu de la radioactivité naturelle et de l'argon 39 issu, dans des proportions connues, du potassium 40. Donc, si je dose l'argon 40 et l'argon 39 en même temps dans le même échantillon, je vais pouvoir remonter au rapport per surface, potassium sur argon. D'accord ? Ça, c'est pas bête. Non seulement je peux le faire dans le même outil, mais je peux le faire en même temps sur le même échantillon. Alors voilà à quoi ça ressemble, le principe. Hein. On met notre petit échantillon dans une ligne sous vide, qui est reliée au spectromètre avec tout un système de valves. Ici, je vous ai représenté le système laser. Une des propriétés de l'argon, puisque c'est un gaz, c'est de dégazer. C'est-à-dire que si on chauffe le minéral, le gaz va se volatiliser. D'accord ? Le gaz qui est absorbé à l'intérieur du réseau, il va sortir. Alors si on chauffe, l'argon va dégazer. On le garde ici dans la première partie. Donc ça, c'est la partie d'extraction. Alors ça peut se faire au four aussi, hein, des fours dont on peut mesurer la température. Là, c'est un laser dont on mesure l'intensité. On envoie ensuite dans une ligne d'extraction qui va avoir toute une série de pièges qui vont garder tout le reste. Hein. Il y a un petit peu d'eau dans notre échantillon, surtout si c'est des micas. Il y a sans doute d'autres gaz atmosphériques adsorbés, etc., etc. Donc on a un système de pièges. Et puis l'argon, il a cette propriété de s'adsorber sur les charbons. Donc on met dans un petit coin, là, on met un petit peu de charbon, très froid, et tout l'argon, propriété intéressante, va aller se piéger là-dedans. En le gardant à froid, on va empêcher l'argon de ressortir. On peut donc remettre le vide dans la ligne et enlever tous les autres gaz. Donc on se retrouve avec juste notre argon, donc tout le reste du gaz est envoyé par une pompe vers le milieu extérieur, et on se retrouve avec notre argon piégé dans le charbon. Phase de désorption, on libère à nouveau notre argon pour le passer dans la ligne. Alors ça, c'est tout simple, on chauffe les petits charbons de sèche-cheveux, hein, ça fait un peu artisanal, mais c'est comme ça qu'on fait. Et puis on l'envoie vers le spectromètre de masse en phase gazeuse. Et là, dans le spectro, on ne mesure pas simplement l'argon 40 et l'argon 39, qui sont ceux qui nous intéressent, mais aussi l'argon 38, l'argon 36. Parce que ils vont nous permettre de faire des corrections, d'une part. Ensuite, parce qu'un spectromètre de masse ne donne que des rapports de teneur, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais il ne nous donnera jamais une valeur absolue, mais une valeur comparée. D'accord ? Donc c'est l'argon 38, par exemple, sert de valeur de référence. Et l'argon 36, on sait qu'il ne peut provenir que de l'argon atmosphérique. Et l'argon atmosphérique, il contient aussi un petit peu d'argon 40. Donc si on dose l'argon 36, on va pouvoir enlever la partie atmosphérique du signal. Si jamais l'air, enfin on fait le vide hein, dans la ligne, mais si jamais il y avait un petit peu des bulles d'air coincées quelque part dans les fractures du minéral, on a pu les enlever comme ça. Donc avec ça, on peut calculer un âge. Alors on ne fait pas une mesure, parce qu'a priori, quand c'est présenté comme ça, on pourrait le faire. On fait en fait plusieurs mesures. Et il y a plusieurs façons de faire. Ou alors, tiens oui, voilà, ça c'est ce qui se passe quand on finit la mesure. Là, vous avez une muscovite qu'on est en train de chauffer au laser. Alors, c'est un laser invisible, on ne voit pas la lumière. Voilà. Et là, elle passe à 1100, 1200 et 1300 degrés. Et c'est terminé. La muscovite a complètement fondu. On se retrouve avec une petite bille de verre dont on sait qu'elle ne contient absolument aucun gaz. Alors, si vous faites ça, si vous la chauffez et que vous la faites fondre, vous allez avoir tout l'argon dans la ligne et vous allez avoir une mesure à la fin. Mais vous pouvez aussi chauffer par palier. On va chauffer un peu. On va dégazer un peu. On va mesurer un âge. Et puis, on continue. Donc par palier d'intensité laser successif. Et ça a été utilisé pour les premières fois, c'était assez intéressant, ça a été utilisé pour la première fois ou parmi les premières fois sur la Lune. Alors ici, voici l'endroit où a atterri la mission Apollo 15 dans les monts Apennins. Et ils ont ramené quelques kilos de tuf et de basalte. Et voilà ce qu'on en a fait. Alors voilà l'endroit précis entre la ride de Hadley et le complexe nord, où ils ont atterri. Ils ont posé un sismomètre aussi d'ailleurs. Voilà. Et voilà à quoi ressemblent les résultats des datations argon-argon des basaltes lunaires. Dans un diagramme, fraction d'argon 39 libéré, âge apparent. On a représenté plusieurs rectangles. Alors ici, je vous présente par exemple les données du plagioclase. On a daté un plagioclase de l'échantillon 15 pour Missio Apollo 15, 555, numéro de l'échantillon. Et vous voyez qu'on a plusieurs âges, hein, ça donne bien une âge avec une barre d'erreur, qui sont représentés en fonction de la fraction d'argon 39 libéré. Ben ça, c'est les différents pas de chauffage. Premier pas de chauffage, on n'a pas chauffé beaucoup, on n'a pas libéré beaucoup d'argon, on obtient un âge pas très précis, la mesure est mauvaise. C'est le premier pas de chauffage, on a sans doute libéré des gaz adsorbés à la surface du minéral, dans des sites qui étaient un peu endommagés, enfin bref, une partie du signal qui n'est pas de bonne qualité. Et puis là, par contre, vous voyez, les différentes barres d'erreur ne sont pas très grandes, hein, l'incertitude n'est pas très grande. Et puis, en augmentant la température ou l'intensité du laser, on obtient la même chose. Donc tous ces âges-là, ils sont cohérents entre eux, on va les garder. Celui-là, il a une grosse barre d'erreur, on le vire. Ici, on a 4 pas de chauffage qui représentent à peu près 90% de l'argon libéré, d'accord, 80% du signal, 90% du signal, qui donne un âge de 3,3 milliards d'années. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'âge plateau, puisqu'on garde que la partie qui forme un plateau. C'est ce qu'on appelle un âge plateau argon-argon. Alors, vous voyez que, par exemple, si on prend la roche totale, qui dessine un spectre assez complexe, on ne peut pas déterminer l'âge plateau. Alors, cette méthode, ce n'est pas simplement pour enlever les parties qui ne nous plaisent pas, c'est pour voir si... Parce que si on avait chauffé les choses d'une seule fois, on n'aurait pas vu la différence entre plagioclase et la roche totale. Là, on voit que la roche totale, en fait, elle a été perturbée. Que visiblement, il y a des... Tous les rapports argon 40, argon 39 ne signifient pas un âge. D'accord ? Donc là, on ne publiera pas d'âge argon-argon sur la roche totale. Par contre, le plagioclase, on peut le dater et on peut estimer qu'il représente bien la cristallisation de la roche volcanique. D'accord ? En plus, sur la Lune, il y a un avantage, il n'y a pas d'atmosphère. Donc on sait qu'il n'y a pas de contamination par l'argon atmosphérique. Ça, c'est une méthode. On peut chauffer à plusieurs intensités successives pour avoir un âge plateau. Et puis, il y a une autre façon de faire qui permet aussi de séparer le signal du bruit, c'est cette fois-ci avec un laser, j'ai pas d'illustration, mais avec un laser, de taper à un endroit du minéral. Cette fois-ci, on va pas dater tout le minéral, on va dater une zone du minéral. Et vous imaginez qu'un minéral qui a eu des surcroissances ou qui a eu une altération sur le tour à cause de fluide, à cause de je ne sais quoi, et ben il va avoir lui aussi des âges qui seront pas cohérents à l'échelle de tout le minéral. Alors, en fonction de ce que vous voulez dater, le moment où la croissance a commencé, ou le moment où il y a eu des ennuis sur le bord du minéral, vous allez focaliser votre faisceau laser à différents endroits. C'est ce qu'on appelle la datation in situ. Donc, l'argon-argon, pas mal d'intérêt. Et il a montré la même chose que le rubidium-strontium. Quand on datait dans la même roche des biotites et des muscovites, eh ben, on n'avait pas le même âge. Même problème, les biotites donnaient systématiquement pour des roches avec une histoire complexe des âges plus récents que les muscovites. Alors là aussi, l'idée ça a été que le facteur qui contrôlait tout ça, c'était la température. Alors les études se sont penchées sur des objets géologiques qui avaient des refroidissements très lents. Et il y a quelques plutons comme ça, dont on sait, quelques roches plutoniques dont on sait qu'ils se sont mis en place et puis qu'il n'y aurait rien arrivé depuis. Donc ils ont refroidi in situ, sans changement notoire des conditions. Et ça, c'est un exemple qui a été un des premiers étudiés par Harrison, qui est un des papes de la datation argon-argon. C'est le pluton du Cotoun en Colombie-Britannique, voilà, dans les rocheuses canadiennes. Et voilà ce qu'il a fait. Il a utilisé la méthode rubidium-strontium sur roche totale, sur les biotites, la méthode potassium-argon, argon-argon pour être précis, sur des amphiboles, des plagioclases, des biotites et des orthoses. Et vous voyez que les âges sont différents. Et puis ici, il a modélisé de façon thermique un corps à température initiale de 1700, 1600 degrés, je ne sais pas combien, qui se refroidit dans un corps, etc. On peut mesurer, on peut dessiner l'exponentielle de son refroidissement. Et si on replace les différents âges le long de cette courbe, on s'aperçoit que les différents chronomètres se sont mis en route à des températures différentes. On retrouve bien ici que... ah ben non, il n'est pas daté les Muscovites par la méthode Potsdam-Arcon, mais on retrouve la roche totale, puisque elle, les datations sur roche totale, puisque elle ne dépendent pas de la température, mais vraiment de la formation de la roche. Mais là, il l'a mise au départ. Par contre, on voit que les minéraux se ferment plus tard. Alors, cette notion de température de fermeture du système, dire que les systèmes, les chronomètres radiochronomètres sont sensibles d'abord à la température, c'est dire ça, c'est dire que au-delà d'une certaine température, lors du refroidissement, la diffusion est plus efficace que la production radioactive, c'est-à-dire que les rapports fissure-paire entre les différents minéraux vont s'équilibrer. Les isotopes du strontium, 87 à 86, ils vont diffuser, qu'ils soient produits plus à un endroit qu'à un autre, on s'en fout, ils se remettent partout pareil. Donc le rapport fissure-paire n'a aucune signification en termes d'âge. Par contre, en dessous d'une certaine température, température de blocage ou de fermeture, c'est pareil, alors la diffusion devient négligeable. Et cette fois-ci, on peut interpréter le rapport fissure-paire d'un minéral ou d'une roche comme significatif de son âge. Vous voyez le truc ? Alors, cette notion un peu empirique, bien sûr, elle a été formalisée de façon physique par Dodson en 1973, l'équation de Dodson, tout ce qu'il y a de plus ergonomique. Bon, c'est compliqué. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que ça se base sur une définition de la diffusion, qui est celle-là, qui est la loi d'Arrhenius, qui dit que la diffusion, elle est activée par la température. Elle s'exprime comme un D0 exponentiel de moins E, une certaine énergie d'activation sur RT. D'accord ? En résumé, elle décroît de façon exponentielle avec la température. Donc il suffit d'une petite chute de température pour que la diffusion devienne de beaucoup moins efficace. D'accord ? Donc on retrouve ce terme D0, ce terme E et dans l'équation de TB. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, il y a des choses qu'on peut tirer de cette équation. D'abord, TB, température de blocage, elle s'exprime en fonction de TB. C'est ce qu'on appelle une équation itérative. En résumé, il faut avoir une idée de la valeur approximative, la rentrer là, faire le calcul, on en sort une valeur qu'on rentre à tout nouveau dedans, et si notre idée de départ est la bonne, alors on doit converger vers une valeur significative. D'accord ? C'est un petit peu bizarre, vous allez trouver. Deuxième chose, elle dépend de... ce terme A, petit a, et ici un terme grand A, qui sont deux termes qui dépendent du domaine de diffusion. En résumé, vous imaginez bien que la diffusion, elle dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Si on regarde un tout petit bout de minéral, la diffusion, elle, même si la diffusion n'est pas très efficace, ça va quand même diffuser. Par contre, si on regarde à l'échelle d'une roche, pour qu'un isotope du strontium ait fait 5 cm, là, il faut quand même que la diffusion soit importante. Donc ça dépend aussi, par grand A et petit a, de la taille et de la forme aussi du domaine de diffusion. Est-ce qu'on considère un mica, qui est plat? Est-ce qu'on considère un plagioclase, en forme de baguette, etc. Donc ça, c'est des coefficients qui ne sont pas faciles à déterminer. Et puis, dernier problème, elle dépend de dt sur dt, la vitesse de refroidissement. Alors que précisément, un des intérêts de ces chronomètres, c'est de mesurer la vitesse de phénomène géologique. Daniel vous en parlera tout à l'heure. Visiblement, pour pouvoir interpréter le résultat, il faut avoir une idée de la vitesse de refroidissement. Donc on se retrouve très embêté. Cette équation, elle est vraie. Elle a physiquement une réalité. Mais après, pour ce qui est de la mise en œuvre et de l'estimation des températures de blocage pour un système isotopique et un minéral donné, là, on est embêté. Alors la preuve, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour la température de blocage de la méthode argon-argon, du couple potassium-argon sur muscovite, ça va dans la littérature de 350 à 500 degrés Celsius. Alors vous imaginez, pour une roche métamorphique qui est passée dans le schiste vert, entre 350 et 500 degrés Celsius, pile, ça va complètement changer les scénarios géodynamiques. Donc là, on est très embêté. Et il n'y a pas vraiment de réponse. Mais c'est au premier degré vrai. Au premier degré, on peut dire que il existe pour un radiochronomètre une température de blocage à laquelle il se met en route. Conclusion, il y a deux interprétations possibles pour un âge. en particulier pour les roches métamorphiques. Une roche magmatique, a priori, les cristallisations ont toujours lieu à haute température, au-dessus de 800 degrés. Donc on va toujours mesurer le passage sous la température de blocage. Tous les âges seront ce qu'on appelle des âges de refroidissement. Par contre, quand on s'intéresse à des roches métamorphiques qui peuvent cristalliser dans le schiste vert, une chlorite, elle va cristalliser à quoi ? 350, 450 degrés Celsius ? Température relativement basse, sous la température de blocage. Donc cette fois-ci, le chronomètre va se mettre en route dès la cristallisation, puisqu'on est déjà sous la température de blocage. Et cette fois-ci, ce sera un âge de cristallisation. Donc deux types d'âges argon-argon, potassium-argon, des âges de cristallisation et des âges de refroidissement. Alors, il faut pouvoir estimer les conditions de pression, mais surtout de température, de cristallisation des minéraux. Et là, donc, il faut toute une étude de pétro très fine pour dire tel minéral, il appartient à telle paragenèse métamorphique ou magmatique, et donc il a cristallisé dans telles conditions. D'accord ? Donc, il ne suffit pas de prendre un minéral dans la roche pour le dater, il faut savoir ce que représente ce minéral pour la roche, pour savoir ce qu'on date. Alors là, quand on commence à faire ça, on s'y perd. En tout cas, les tectoniciens et les radiochronologistes s'empoignent. Et on arrive très vite aux limites de la notion de température de blocage. Je vous prends un exemple récent, c'est celui du Doramera. Vous savez, c'est un des trois massifs cristallins internes, dans lequel on a trouvé des roches dites d'ultra haute pression, des roches métamorphiques d'ultra haute pression, qui contiennent la coésite, l'isomorphe du quartz à haute pression, au-dessus de 3 gigapascal. Donc ici, ça fait 35 kilobars, 3,5 gigapascal, 100 à 110 km de profondeur. C'est des white schistes, ces roches, c'est ce qu'on appelle des white schistes, c'est-à-dire des éclogites métapilitiques très riches en mica. Donc une des premières idées, ça a été de dater les mica par la méthode argon-argon. Ça a été fait par des gens à Montpellier, âge de l'ultra-haute pression, 80 millions d'années. L'ultra-haute pression alpine est crétacée. Ah, c'est un morceau de socle. Je ne sais plus, ça c'était en 93, j'ai perdu la date. Une autre équipe, en datant d'autres minéraux par une autre méthode, la méthode uranium-plomb, donne un âge de 35 millions d'années pour le même stade. En disant, la méthode argon-argon ne convient pas parce qu'il y a de l'argon en excès, et donc on a l'impression que l'âge est plus vieux. C'est un artefact de mesure. Le pic de métamorphisme à ce moment-là, c'est 35 millions d'années. Ce qui est toujours en débat, mais qui semble être de plus en plus admis. En effet, ce serait plutôt un épisode éocène que crétacé. Et bien, pour vous montrer la tête du débat, voilà des âges argon-argon, des âges plateaux argon-argon qui ont été faits sur des micas du Doramera. Alors vous allez voir que, gardons à l'idée, pour simplifier, que le métamorphisme, le dernier épisode métamorphique, à 750 degrés, a eu lieu à 35 millions d'années. 750 degrés, c'est au-dessus de la température de blocage de l'argon-argon pour la muscovite, on devrait avoir que 35 millions d'années pour toutes les roches. Voilà la tête des spectres. Vous voyez des beaux âges plateaux à 270 millions d'années. Bel âge plateau à 80 millions d'années, beaux âges plateaux à 100 millions d'années. On obtient a priori n'importe quoi. Si on regarde exactement ce qu'on date, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus subtil. Ici, la pharyngite, une pharyngite, c'est un mica blanc du métamorphisme. C'est comme ça qu'on appelle tous les micas qui sont entre la muscovite et la céladonite. Bref. Vous voyez, elle présente ce qu'on appelle un spectre en sel de cheval, où clairement il y a une perturbation. Et bien, cette pharyngite, on a pu mettre en évidence qu'elle avait subi plusieurs phases de métamorphisme. Elle était zonée. Tout n'avait pas cru pendant le même métamorphisme. Donc ça, c'est un des effets du polymétamorphisme qui peut donner des choses bizarres. Si on regarde maintenant dans une roche, si on prend un porphyroclaste de muscovite, c'est-à-dire un beau mica blanc, bien beau mica blanc dans la roche, bien entier, et puis on regarde dans la matrice très fine autour qui a été déformée, si on regarde les petites pharyngites, eh bien on voit que les petites pharyngites, elles donnent un âge qui est pas loin d'être l'âge du métamorphisme, alors que le porphyroclaste de muscovite, malgré le fait qu'il soit passé au-dessus de sa température de blocage, puisqu'il n'a pas été du tout déformé, il s'est pas remis à zéro. L'effet de la composition des minéraux, et là on est perdu dans un abîme de perplexité, on prend une pharyngite magnésienne, une pharyngite ferreuse, dans deux roches du même affleurement, mais qui n'ont pas exactement la même chimie, elles n'ont pas le même âge. On prend cette fois-ci, dans la même roche, des pharyngites qui sont déformées, et des pharyngites qui n'ont pas été déformées du tout, Donc vous imaginez des pharyngites qui sont dans la foliation et des pharyngites qui ne sont pas dans la foliation, par exemple. Mais vous voyez que les pharyngites qui sont déformées, elles ont été complètement perturbées, alors que les pharyngites non déformées, elles donnent stoïquement un âge à 100 millions d'années. Qui n'est pas l'âge du dernier pic métamorphique, d'accord ? Alors vous allez me dire, il est marrant, lui, il est venu nous dire qu'en fait ça ne marchait pas, qu'on ne peut rien dire, etc. C'est pas vrai. Ça veut dire que si on sait ce qu'on date, on va pouvoir non seulement dater la formation de la roche, l'épisode, le dernier épisode métamorphique, mais aussi d'éventuelles phases de déformation, d'éventuelles phases d'interaction avec des fluides, hein, qui peuvent changer la chimie. Alors vous savez que dans le métamorphisme, tout problème, c'est que déformation, fluide, ça va ensemble. Hein. Dès qu'on commence à déformer, on peut faire des petits chenaux où passeraient les fluides. L'effet des recristallisations, et là on est directement à faire aux effets du polymétamorphisme, hein, qui était cité au-dessus. Donc c'est un outil sensible, mais s'il est joint à une étude très précise qui va du terrain jusqu'à la lame mince, alors on est sauvé, et même on va pouvoir faire des choses très précises à condition de discuter les choses bien. Alors, en conclusion, la radioactivité vous veut du bien. À travers ces trois méthodes, on a vu quoi ? Trois façons différentes d'intégrer cette équation toute simple, a priori, n égale n0 exponentielle, etc. Que ce qu'on date, ça dépend, la précision de nos datations, elle dépend essentiellement de notre outil de mesure. D'accord ? Alors c'est récent, hein, le spectromètre de masse, ça date de 1950, donc on peut penser qu'on est encore dans les balbutiements. Hein, bon, on ne sait pas ce que ça donnera dans 50 ans. Et puis qu'enfin, ça c'est vraiment le point sur lequel j'insisterai, tout simplement parce que je ne suis pas radiochronologiste, hein, je suis tectonicien, qui utilise la radiochro, c'est que la radiochro toute seule, ça a un intérêt peut-être méthodologique, mais si on veut en faire quelque chose en termes de géodynamique, en termes de géologie, il faut y adjoindre des études très pointues qui vont du terrain au labo, des analyses de roches, des études de la déformation, des fluides, etc. etc. Donc c'est vraiment un domaine sur lequel on est obligé de rapporter toutes les compétences qui sont autour. Voilà.